Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans son format grand invité de l'économie, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Paul Deremeaux, économiste, président d'honneur de Bank of Africa. Paul Deremeaux, bonjour.
Bonjour.
Paul Deremeaux, vous êtes un banquier un peu atypique. Vous avez créé Bank of Africa en 1982. À l'époque, personne ne parlait de l'émergence de l'Afrique. Créer une banque à cette époque, c'est un peu de la folie, n'est-ce pas ?
C'est ce que beaucoup ont dit, mais ils ont vu que finalement, la folie pouvait conduire à de belles choses et de grandes choses, et c'est ce qui s'est passé.
Alors, on va en parler, bien sûr, tout au long de cette émission. Un détail, ou peut-être pas, d'ailleurs, un détail de votre itinéraire, c'est que vous vivez à Bamako, la capitale malienne, et que vous avez pris la nationalité de ce pays africain. Pourquoi ce choix ?
Pour différentes raisons. Je vis là-bas depuis 2006, après avoir vécu un certain nombre d'années à Cotonou. Et donc, j'avais le souhait de m'implanter de manière définitive dans ce pays, parce que mon épouse est malienne et que je trouve ce pays intéressant.
À quel point de vue ?
Au point de vue des relations avec les gens. Je crois que c'est un pays où les rapports sociaux sont très, très agréables. Et c'est ce que, d'ailleurs, pensent beaucoup de gens, d'Européens qui ont vécu au Mali et qui gardent ensuite des attaches très fortes avec le Mali.
Alors, au cours de cette émission, nous allons évidemment parler de la situation économique du Mali, de celle plus généralement de l'Afrique de l'Ouest, et de l'état du système financier régional avec l'expert que vous êtes, Paul Deremeaux. Première question de Frédéric Maury.
Alors bonjour Monsieur Deremeaux.
Bonjour Monsieur Maury.
Si on revient un petit peu justement au début des années 80, donc tout d'un coup, on est en 1982, en tout cas au début des années 80, et vous décidez de créer une banque au Mali, Bank of Africa. Comment vous vient cette idée, d'une part, et surtout avec qui vous le faites ?
Alors effectivement, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de la création de la première Bank of Africa. L'idée est venue d'un certain nombre d'acteurs africains qui connaissaient le terrain et qui avaient cette ambition de créer une banque qui n'appartienne pas à des actionnaires étrangers. Les Maliens sont traditionnellement des hommes d'affaires et des commerçants en particulier très dynamiques. Et ils trouvaient à cette époque, comme je suppose dans d'autres pays, que les banques qui étaient présentes ne correspondaient pas à leur attente. Le système bancaire était très réduit à cette époque-là. Il y avait des banques étrangères, des banques françaises, en particulier au Mali, qui s'occupaient surtout de la clientèle européenne et qui avaient, en ce qui concerne la clientèle africaine, une position très, très élitiste. Vous aviez de l'autre côté des banques d'État, il y en avait une ou deux au Mali, qui avaient un fonctionnement qui laissait souvent à désirer pour différentes raisons. Et donc il y avait le souci de se dire, si nous avons une banque qui est privée avec des intérêts nationaux, eh bien nous allons pouvoir avoir un meilleur service pour nos opérations bancaires.
Qu'est-ce qui vous prédisposait, vous, Paul Deremeaux, à participer à cette aventure ?
Parce que d'abord j'étais financier de formation, économiste et financier de formation, et que je travaillais avec l'un des initiateurs du projet, Mohamed Tchekoura Diawara, qui était l'ancien ministre du plan de Côte d'Ivoire, qui avait lancé ce projet avec un certain nombre de grands commerçants maliens, dont un qui s'appelait Borema Silla, qui était un commerçant saracolais, qui avait un carnet d'adresses et une audience particulièrement importante au Mali, et qui a été capable de rassembler beaucoup d'actionnaires sur ce projet. Donc c'est un trio un peu particulier qui a été à l'origine de cette banque. Il y avait un intellectuel qui était Mohamed Diawara, il y avait un commerçant malien qui était capable de regrouper beaucoup d'hommes d'affaires du pays, et il y avait un technicien qui a permis de mettre en musique les idées avancées par les uns et par les autres.
Et donc, le technicien, c'est vous, hein, c'est ça ?
Le technicien, c'était moi. L'idée de cette banque et le nom, d'ailleurs, sont venus de Mohamed Diawara. Et ensuite, l'opération a été menée. Nous avons créé la banque fin 1982. Et la banque a démarré ses activités fin 1983.
Vous le disiez, à l'époque, le paysage bancaire dans cette partie de l'Afrique, il était assez simple. C'était soit des banques françaises, assez élitistes, soit des banques publiques qui étaient plus ou moins bien gérées, dont la plupart ont d'ailleurs depuis disparu. Mais il y avait très peu de banques privées africaines à l'époque. C'était sans doute une des premières.
Il y en avait très peu, il n'y en avait pas au Mali. Et il y avait un groupe qui est né à peu près à la même époque, un tout petit peu plus tard, si mes souvenirs sont bons. C'est le groupe Ecobank qui, je crois, a démarré ses activités en 84. Et donc, c'était le démarrage de ce qui est devenu une composante essentielle des systèmes bancaires d'Afrique subsaharienne, des banques à intérêt privé africain. Faut bien se rappeler qu'on se trouvait à ce moment-là dans un contexte qui a progressivement empiré dans toute la période 80-90, avec une situation macroéconomique qui était très difficile, avec des problèmes budgétaires très importants dans les États.
C'était l'époque des ajustements structurels, du début ?
C'était le début des ajustements structurels. Les ajustements structurels ont commencé vers la fin des années 1980. Et donc, il y a eu, au niveau bancaire également, une hémorragie très importante de créances en souffrance, qui était due à la situation économique difficile, à la baisse des prix des produits exportés. Et donc, les banques étatiques sont devenues, avec des capitaux propres, insuffisants. Et les banques privées européennes ont beaucoup hésité à réinvestir. Elles ont souvent réinvesti pour remettre à niveau leurs fonds propres, mais elles étaient aussi sollicitées par d'autres marchés qui paraissaient plus porteurs à l'époque, comme notamment l'Europe de l'Est. Et donc, il y a eu une espèce de freinage vis-à-vis de l'Afrique, continent dans lequel on a eu une période qui a couru jusque vers les années fin des années 90 de croissance extrêmement ralentie, voire de dépression. Et donc il y avait de la place pour de nouveaux acteurs, et il y avait aussi nécessité de nouveaux acteurs. Donc
mais avec quels capitaux ?
Avec des capitaux privés africains. La Bank of Africa, qui a commencé donc au Mali, qui était, rappelons-le, en dehors de la zone CFA à ce moment-là, parce qu'on est revenu dans la zone CFA un peu plus tard, 2 ans plus tard, avec l'équivalent de 300 millions de francs CFA de premier capital social.
Donc à l'époque, on pouvait lancer une banque avec moins d'un million d'euros, c'est ça ?
Absolument, absolument.
À quelques centaines de milliers d'euros.
Voilà, et dans l'UMOA, c'était un peu plus, mais c'était modeste, également modeste, puisque le capital est resté longtemps à 1 milliard de francs CFA dans l'UMOA.
Et rappelez-nous, cette banque que vous avez créée donc avec 300 millions de francs CFA, aujourd'hui, le groupe, il fait combien à peu près de capitaux propres ?
Le capitaux propre, à peu près 700 millions d'euros.
700 millions d'euros,
voilà. Capitaux propres consolidés, oui, un total de bilan dans l'ensemble du groupe pour tous les pays où nous sommes implantés d'un peu plus de 7 milliards d'euros. C'est une aventure qui était possible à ce moment-là, qui l'est beaucoup moins maintenant. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus, parce que si vous prenez la situation dans l'UMOA maintenant, il faut 10 milliards de francs CFA pour créer une banque. C'est beaucoup d'argent.
30 fois plus qu'à l'époque.
Absolument. Et ça n'empêche pas que certains peuvent créer une banque avec leurs capitaux. Des individus ou des groupes isolés peuvent créer une banque avec leurs capitaux, mais c'est beaucoup plus rare. Et en même temps, ce n'est pas parce que la banque est créée qu'ensuite elle peut vivre. parce qu'il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes de coopération avec les correspondants étrangers qui sont, il y a des contraintes de modernité, d'instruments de travail qui sont beaucoup plus fortes et qui rendent cette activité plus difficile. Donc les banques privées qui sont nées à l'époque, il y en a eu d'autres, elles ont profité de ce trou d'air qui existait, et pour un certain nombre d'entre elles, elles ont réussi et obtenu maintenant une situation de groupe bancaire
ayant
pignon sur rue.
Oui, alors malgré ça, la financiarisation, la bancarisation du Mali, de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas encore au niveau voulu par les organisations internationales, par les milieux financiers internationaux, par les dirigeants ouest-africains. Dans une note conjointe qui a été publiée récemment par la Banque africaine de développement et par l'OCDE, on lit des chiffres pas très reluisants sur le développement du secteur financier des pays de l'UEMOA. 7% seulement de la population a accès à ces services financiers, alors que l'objectif, c'est 20%. C'est un échec pour ces pays-là, comme pour vous ?
Ça dépend si on regarde le passé ou si on regarde ce qu'on souhaite. Si on regarde le passé, on ne peut pas dire que c'est un échec, puisque ce taux de bancarisation a beaucoup progressé en 20 ans.
Mais quand vous avez, par exemple, créé la Bank of Africa en 82-83, combien de comptes avez-vous ouverts dans les premiers jours et combien en avez-vous aujourd'hui ?
Je ne me souviens plus combien nous en avions dans les premiers jours, mais je sais qu'on a commencé en décembre 1983 avec zéro franc de dépôt et zéro compte. Et maintenant, au niveau de la Bank of Africa Mali, il y en a plus de 100 000. Et au niveau du groupe, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est une évolution qui, par rapport au démarrage de notre banque ou des autres banques, est, je pense, satisfaisante. Et d'ailleurs, les taux de bancarisation, je suis étonné du chiffre que vous me donnez, parce que je pensais que c'était plutôt autour de 14 ou 15%, mais ça doit dépendre des statistiques ou des pays qui sont visés. Mais disons que dans l'UMOA, on est maintenant, je crois, au-dessus des 10%, alors qu'on est parti de moins de 5% il y a 20 ans. Par rapport au futur ou par rapport à ce qu'on souhaite, c'est effectivement très peu satisfaisant. L'Afrique francophone est la plus en retard parmi toutes les régions d'Afrique subsaharienne.
Comment vous expliquez ce phénomène ? Pourquoi est-ce que cette bancarisation reste très faible ? Que ce soit 10 ou 15%, ça reste quand même très bas. Pourquoi les banques n'arrivent pas à bancariser davantage ?
Je pense qu'il y a eu un retard dans le démarrage de la politique de création d'agences, qui est maintenant beaucoup plus active, mais qui a commencé très tard, seulement au début des années 2000, donc après 10 ans de présence des groupes privés africains. Je pense aussi qu'il y a un goût d'initiative, un goût de modernisation du fonctionnement qui est moins fort dans les pays francophones que dans les pays anglophones.
C'est un problème culturel, alors ?
C'est un problème, à mon avis, qu'on pourrait considérer comme culturel. Si on prend le cas de l'Afrique de l'Est, que je connais assez bien, et d'un pays qui est plutôt en avance dans ses pratiques, comme le Kenya, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées dans ce pays, aussi bien le mobile banking, dont on parlera peut-être tout à l'heure, que dans les phénomènes de ce qu'on appelle l'agency banking, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des prestataires de services pour faire des opérations bancaires.
Des prestataires de services, c'est-à-dire ça peut être des supermarchés,
ça peut être des supermarchés, ça peut être des petits boutiquiers, ça peut être des.
Mais est-ce que c'est pas parce que les autorités de l'UMOA sont trop contraignantes par rapport aux autorités kenyanes qui ont laissé ce type de pratique se faire, alors qu'en Afrique de l'Ouest, on empêche ce type de choses ?
Je crois que la forte contrainte dépend des domaines dans lesquels elle se pratique. Sur ce plan des systèmes de travail, vraisemblablement, l'UMOA est moins ouverte au changement que l'Afrique de l'Est. Sur le plan de la réglementation et de l'application très stricte des ratios réglementaires, vraisemblablement, l'UMOA est moins immédiate dans ses sanctions que la Central Bank of Kenya. Donc je crois que c'est là encore des questions culturelles et des pratiques de travail qui sont différentes.
Une question sur les difficultés des banques en Afrique, Frédéric Maury.
Il y a une crise, enfin des grandes difficultés bancaires au Kenya. Il y a plusieurs établissements qui ont été placés en redressement ou même qui ont subi de graves crises. Au Nigeria aussi, il y a une crise bancaire en cours depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. En RDC, il y a une grande banque, la BIA, qui a été aussi mise sous administration. Est-ce qu'il y a une crise bancaire en ce moment en Afrique subsaharienne et pour quelle raison?
Je crois que les situations que vous évoquez sont différentes. Pour la RDC, qui est le dernier exemple, c'est une banque qui a beaucoup grandi et dont les actionnaires n'ont vraisemblablement pas été en mesure ou n'ont pas voulu de faire suivre à due proportion les capitaux propres. Donc il est arrivé à un moment où il y avait difficulté pour la banque de suivre les contraintes en matière de liquidité. Et la Banque centrale a été obligée de prendre des mesures dans un pays qui est extrêmement fragile sur le plan bancaire, puisque le système bancaire vient seulement de se remettre en marche après une longue période où il était très vacillant. Donc c'est une situation qui est due à une crise de croissance, si je puis dire, de la banque en particulier. Pour le Nigeria, à mon avis, c'est surtout l'environnement économique qui fait que les banques sont en situation difficile, particulièrement au niveau de leurs créances en souffrance.
L'environnement, vous voulez dire la baisse des cours du pétrole?
La baisse des cours du pétrole qui a entraîné la chute du Naira, qui a entraîné également la dépression de l'activité économique. Le pays a été en repli en 2015 et début 2016. Et donc ça a un effet immédiat sur les banques, puisque beaucoup d'entreprises sont en difficulté pour rembourser leurs créances et les banques doivent faire des provisions considérables.
Donc vous voulez dire que c'est des cas particuliers, en fait, il n'y a pas une crise bancaire générale dans la sous-région.
Je ne pense pas qu'il y ait une crise bancaire générale. Ce qu'on peut observer, en revanche, c'est qu'il y a une montée des risques dans tous les pays.
Africain,
oui, je crois que c'est pas spécial à l'Afrique. Il y a une montée des risques aussi dans d'autres parties du monde. Mais en Afrique, en tout cas, il y a une montée des risques qui est également sans doute un signe de la croissance économique qui est intervenue, qui a amené les banques à prendre plus de... à octroyer plus de crédits. Parfois en direction de secteurs plus risqués comme les PME, et que tout ceci exige une maîtrise des crédits, une maîtrise des risques de contrepartie et opérationnelle qui va se réaliser peu à peu, et il y a un temps d'apprentissage qui est nécessaire.
Entre 2008 et 2010, vous avez cédé en fait le contrôle de Bank of Africa, enfin vous et les actionnaires de Bank of Africa, vous avez cédé le contrôle à un groupe marocain qui s'appelle BMCE Bank. Est-ce que vous êtes content de ce choix avec le recul maintenant? Ça fait 7-8 ans. Est-ce que vous êtes content de ce choix?
Je pense qu'il faut jamais regretter ce qu'on a fait. Et ce qui me plaît surtout, c'est que 6 ans après, on constate que l'ossature du groupe reste inchangée. Les grandes lignes directrices du fonctionnement n'ont pas été modifiées. Je crois que la BMCE a apporté beaucoup de son expérience commerciale, en particulier pour servir le développement du groupe. Donc, 6 ans après, je considère que le groupe va toujours bien.
On aura noté que vous avez pris quelques secondes pour réfléchir à la réponse. Paul de Romeau est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous le retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans notre format grand invité de l'économie avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous recevons le banquier et économiste franco-malien Paul Deremaux. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons parlé des difficultés du secteur bancaire malien. Une nouvelle question sur les questions bancaires avec Frédéric Maury.
Alors, on parlait du fait que vous avez cédé le contrôle de Bank of Africa à BMCE, donc un groupe bancaire marocain. Et quand on fait le calcul aujourd'hui, on s'aperçoit que l'hégémonie française, c'était le cas dans les années 80 où les banques françaises étaient dominantes, aujourd'hui elle a été remplacée par l'hégémonie marocaine. Au Mali, votre pays par exemple, plus de la moitié du secteur bancaire, des actifs, est tenu par des banques marocaines. Est-ce que vous pensez quand même qu'on a atteint un peu une limite dans ce domaine-là et qu'il ne faut pas remplacer des hégémonies par d'autres?
Oui, je pense que oui, et d'ailleurs c'est également, à ma connaissance, une position que les autorités des pays et les autorités bancaires qui nous contrôlent, la commission bancaire et la BCAO, ont aussi. Le contrôle de plusieurs groupes par un même pays peut poser des problèmes, puisque les souhaits et les politiques de l'actionnaire principal peuvent ne pas cadrer totalement avec les besoins du pays dans lequel les filiales sont installées, d'une part, et les contraintes qui sont posées par l'autorité réglementaire de la maison mère peuvent être spécifiques et entraîner des ralentissements dans la progression des filiales, d'autre part. Donc ces deux raisons font qu'il n'est pas souhaitable qu'un pays soit entièrement dépendant d'actionnaires de maisons mères qui sont dans un autre pays. Je crois que les choses vont évoluer. Si vous prenez l'exemple des banques marocaines, la Banque centrale du Maroc a elle-même plus de réticence qu'auparavant à laisser se poursuivre l'expansion des groupes marocains, parce que ça peut poser pour le pays un risque systémique. Les trois principaux groupes marocains sont engagés fortement en Afrique subsaharienne et ils représentent une part essentielle du système bancaire marocain, donc il y a une surveillance très, très proche. Et les autorités bancaires de la zone sont aussi très vigilantes sur ce point. Il y a d'ailleurs depuis quelques années maintenant une concertation étroite qui est noué entre les autorités de contrôle des deux zones, et je crois que c'est tout à fait utile. Il y a aussi la volonté de certains groupes bancaires régionaux de poursuivre de façon accélérée une expansion en Afrique de l'Ouest, pour ne parler que d'elle. Vous avez un groupe comme Coris Bank qui mène une politique très dynamique d'expansion géographique et qui prend une place de plus en plus importante dans le paysage bancaire. Donc je crois que les équilibres ne sont pas totalement joués et les positions prises.
Alors venons-en à une autre partie de cette émission, Paul Deremaux. On le disait, vous avez pris la nationalité malienne, vous vivez au Mali, vous nous avez dit tout à l'heure à quel point le contact avec vos concitoyens maliens était facile, à quel point vous appréciez d'y vivre. Donc vous êtes un bon observateur de ce qui se passe sur le plan économique de par vos attaches personnelles et de votre passé de banquier, de financier. Quel regard portez-vous sur l'économie malienne? Elle affiche un taux de croissance apparemment significatif, aux environs de 5%. Est-ce que c'est un bon chiffre? Est-ce que c'est suffisant pour que la situation économique de la population malienne s'améliore?
Très clairement, c'est un chiffre qui n'est pas suffisant. Il est d'autant moins suffisant qu'actuellement, il est difficile de voir la situation quotidienne au Mali, l'impact de ces 5% de croissance. Vraisemblablement parce que l'essentiel de cette croissance se fait dans deux secteurs qui ne touchent que peu les banques commerciales que je connais bien, ou qui touchent peu l'activité dans la cité de Bamako, par exemple, qui sont l'agriculture, qui a connu quelques années qui sont plutôt bonnes.
Le coton,
mais l'agriculture vivrière. Il ne faut pas oublier, c'est un point très important, qu'il y a une augmentation démographique très forte dans toute l'Afrique, et que les paysans développent leur culture vivrière pour donner à nourrir à toute la population.
C'est plutôt bien, ça.
Bien sûr que c'est plutôt bien, mais ça explique l'augmentation du PIB qu'on peut constater, mais ça ne donne pas de pouvoir d'achat particulièrement croissant pour la population urbaine. Ça, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est celui des mines, qui vit un peu en vase clos et qui est également un élément majeur de l'économie malienne. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'efforts qui soient faits dans d'autres secteurs, notamment l'industrialisation, dans la création également de services modernes, pour que on puisse voir des changements plus importants dans la situation de tous les jours, et également qu'on puisse avoir un taux de croissance plus élevé. Vous avez aussi un autre secteur, deux autres secteurs qui ont participé à cette croissance du PIB, mais qui n'ont qu'un effet modeste sur les emplois et sur
la vie quotidienne.
Distribution, c'est le secteur bancaire qui a soutenu beaucoup les investissements et qui le soutient toujours, et puis les télécommunications qui marchent très bien et qui constituent une composante non négligeable du PIB.
Frédéric Maury.
Vous parlez d'industrialisation, ça c'est un peu le discours dominant en général en Afrique subsaharienne, de dire il faut industrialiser davantage, puisque l'Afrique s'est beaucoup désindustrialisée. Mais d'un point de vue pratique, vous voyez l'industrialisation dans quel secteur? Parce qu'on a du mal à cerner de manière précise. Dans un pays comme le Mali, hein, je ne parle pas des autres pays, qui n'a pas d'accès à la mer, qui est donc très loin d'un point de vue logistique, quel type d'industrialisation il peut y avoir dans un pays comme le Mali?
C'est effectivement difficile. Il y a ce problème-là d'enclavement. Il y a aussi un autre problème qui est plus important, à mon avis encore, c'est celui du manque de formation et d'éducation des gens, qui rend les embauches de personnel qualifié très difficiles. Et il n'y aura pas d'industrialisation s'il n'y a pas de révolution en matière de formation. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans l'éducation, au point de vue quantitatif. Hein, le taux d'accès des enfants, notamment à l'enseignement primaire, a beaucoup augmenté, mais il reste à améliorer maintenant la qualité de cette éducation, et surtout avoir des formations adaptées aux professions qui seraient nécessaires pour une industrie.
Vous n'avez pas donné d'exemple d'industrie.
Si, mais je vais vous en donner un tout de suite. C'est la possibilité, par exemple, de transformer les produits agricoles. Le Mali est un pays au grand potentiel agricole, et il y a des possibilités de transformation de produits, soit pour la consommation intérieure ou régionale, soit pour l'exportation.
Par exemple, quel produit?
Je pense à des produits comme le maïs ou le mil ou le sorgho, qui peuvent donner lieu à des transformations locales pour, disons, amener des produits qui soient consommables rapidement par la population urbaine. Je pense à la pêche aussi dans le fleuve Niger.
Mais concrètement, on ne voit rien émerger. Quand on interroge les observateurs, les investisseurs potentiels au Mali, ils disent que le gouvernement n'a pas pris les décisions qui s'imposaient, que je pense à un investisseur en particulier qui me disait, quand je préparais cette émission, que rien ne se faisait et que c'était encore pire au niveau prévarication que par le passé. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une grosse déception vis-à-vis de la politique de notre gouvernement chez les investisseurs potentiels au Mali?
Oui, en matière notamment d'industrialisation, effectivement, je crois que le gouvernement ne va pas assez loin et assez vite par rapport aux demandes. Ça peut s'apprécier dans la lutte contre la fraude qui existe et qui est très importante et qui gêne la production d'industrie locale. Ça peut s'apprécier aussi dans la rapidité des décisions qui sont prises pour donner tel ou tel avantage à des industries pour les aider à démarrer. Constate également dans les difficultés de formation et de production de ressources humaines qui soient suffisamment qualifiées. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des retards. Je peux prendre un autre exemple que je connais un peu dans les activités de promotion immobilière que je fais à Bamako. Il y a une spéculation foncière qui gêne les activités des sociétés de promotion, qui renchérit le coût des logements et qui rend difficile la résolution de ce problème qui est pourtant un problème que rencontre une bonne partie de la population urbaine.
Vous évoquiez tout à l'heure, Paul de Remeaux, le développement des affaires minières au Mali, leur faible impact en réalité sur le niveau de vie de la population malienne. Il y a une polémique qui fait rage en ce moment au Mali, c'est celle qui oppose la compagnie minière Randgold Resources, qui exploite 3 mines d'or dans le pays, et le gouvernement malien. On en parle dans quelques secondes avec vous, mais on fait d'abord le point sur ce dossier avec Anthony Fouchard à Bamako.
Après plus d'un an de discussions à l'amiable, le Mali a finalement fermé de force les bureaux de Randgold à Bamako le 8 octobre dernier. Depuis 2013, la société minière et le Mali traînaient un contentieux fiscal qui s'est retrouvé jusque devant le tribunal international d'arbitrage dépendant de la Banque mondiale. Il y a quelques mois, cette instance a donné en grande partie raison à Randgold, condamnant le Mali à rembourser 19 milliards de trop perçus, de quoi passablement énerver le ministère des Finances qui a donc, dans la foulée, a réclamé 42 milliards de francs relatifs à la non-déclaration de la TVA, et ce pour le seul site de Louto exploité dans l'Ouest, à la frontière avec le Sénégal. Le montant global des contentieux entre Randgold et le Mali avoisine les 130 milliards de francs. La société continue d'estimer ses impôts indus, mais s'est acquittée d'un premier paiement de 30 milliards. Un geste de bonne foi, selon le PDG Marc Bristow, car le Mali est stratégique pour nous, mais nous sommes aussi stratégiques pour le Mali, je cite. Randgold Resources contribue entre 7 et 11% du produit intérieur brut du Mali.
Anthony Fouchard à Bamako, vous écoutez RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique est Paul de Remeaux, et je passe la parole à Frédéric Maury.
Est-ce que vous comprenez l'obstination du gouvernement malien qui va jusqu'à fermer les bureaux d'un groupe Randgold qui est quand même sans doute un des premiers, si ce n'est peut-être même le premier investisseur étranger au Mali? Est-ce que vous comprenez cette obstination?
Pas totalement. Les informations qui ont étaient publics sur ce dossier sont assez limités. Et les chiffres que retransmet votre représentant ne sont pas d'ailleurs forcément toujours ceux qu'on voyait dans la presse locale. Et je ne suis pas un spécialiste du secteur. Ce que je note, c'est qu'il y avait eu un appel à un centre international d'arbitrage pour ce litige. Et je suppose que s'il y a eu cette référence à ce centre d'arbitrage, c'est qu'il y avait un accord des deux parties, à la fois Randgold et puis l'État malien, pour se plier aux décisions de cette cour. Si décision il y a eu et que cette décision ensuite n'est pas appliquée, c'est un signe très, très gênant pour les investisseurs présents ou les investisseurs.
Est-ce que vous percevez une hostilité de manière générale, sans forcément rentrer dans ce fond de ce dossier-là qui est un peu complexe, mais est-ce que de manière générale vous percevez une hostilité des autorités maliennes vis-à-vis des investisseurs étrangers?
Non. Dans son principe, non.
Parce qu'il semble que le gouvernement, justement, mène une politique relativement agressive vis-à-vis des entrepreneurs étrangers installés à Bamako et au Mali en général, et qu'il essaye d'une certaine manière de ramener dans ses caisses autant d'argent que possible, comme s'il y avait une sensation de panique.
Je crois que c'est une situation qui, malheureusement, se retrouve dans beaucoup de pays. Le secteur structuré au Mali comme ailleurs est très étroit. Les entreprises qui remplissent correctement leurs obligations comptables et fiscales sont peu nombreuses. Et donc, comme le Mali a en même temps beaucoup de besoins, ou que tous les pays africains ont beaucoup de besoins, ce qui est une réalité logique, elles se tournent d'abord vers le secteur structuré. Et non seulement les impôts sont parfois très élevés, mais les administrations fiscales sont parfois diligentes au-delà de ce qui serait normal. Donc ce n'est pas malheureusement propre au Mali, mais c'est quelque chose qui, c'est sûr, décourage les entreprises. Et c'est aussi une illustration du fait que vous avez parfois, au Mali comme ailleurs, des politiques générales, des grandes déclarations qui sont faites par les plus hautes autorités sur l'attractivité vis-à-vis des entreprises étrangères, des grands groupes ou des investisseurs de toutes sortes. Et que malheureusement, cela ne se traduit pas dans les faits lorsque vous êtes chaque jour confronté à l'administration fiscale qui vous réclame des choses qui ne sont pas dues ou aux organismes qui sont chargés de faciliter l'agrément des entreprises ou les formalités administratives des entreprises et qui vont moins vite que prévu. Donc, la réalité ne va pas parfois jusqu'au bout de l'administration.
Vous diriez qu'il y a une dégradation du climat des affaires au Mali ? En tout cas, il n'y a pas d'amélioration ?
Je ne pense pas qu'il y ait une dégradation, mais l'amélioration, en tout cas, est beaucoup moins rapide que ce que les entreprises attendent, c'est clair.
C'est pas le banquier qui parle là, c'est le diplomate.
Non, c'est le chef d'entreprise aussi. Moi, j'ai, outre mon poste de président du conseil de la BOA Mali, j'ai une entreprise
que vous avez toujours.
Que j'ai toujours. Donc le poste de président que j'ai toujours. J'ai une entreprise que je gère. Et où je vois bien
qui fait de l'immobilier,
et je vois bien comment se passent les rapports avec l'administration, les améliorations qui pourraient intervenir, et les problèmes que posent les retards dans cette transformation des mentalités et des façons de travailler.
Frédéric Maury.
En début d'année prochaine, tous les projecteurs vont être braqués sur Bamako, puisqu'est prévu le sommet Afrique-France. Comment vous voyez évoluer les relations entre l'Afrique et la France ? Est-ce qu'on peut parler d'une refondation des relations économiques ?
Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup évolué dans ce sens. Après le sommet qui avait eu lieu à Paris en décembre 2013, il y avait eu un grand projet en la matière. Et donc, on voulait recréer une relation spécifique entre la France et l'Afrique, qu'on sentait voir s'effilocher avec l'ouverture de l'Afrique sur d'autres relations mondiales, notamment avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays émergents. Et donc, il y avait des projets très forts. Bon, il en est sorti notamment la Fondation Africa France, qui a pour but de stimuler les contacts entre des entrepreneurs africains et des entrepreneurs français. Mais je pense que dans le concret, 3 ans après, on a vu des résultats insuffisants. Et à mon avis, plus le temps passe, plus les relations entre la France et l'Afrique vont se banaliser, si je puis dire. Il y aura toujours des investisseurs français qui seront présents en Afrique, et il y a des entreprises françaises qui ont des positions fortes dans pas mal de secteurs en Afrique et qui vont continuer à rester présentes parce que elles y réussissent bien, elles ont un grand rôle dans le pays. Elles ont aussi une activité de responsabilité environnementale et sociale qui n'est pas négligeable et qui est utile pour le pays. Mais je crois que ces relations vont progressivement arriver au même niveau que celles qui existent avec d'autres pays émergents qui sentent que l'Afrique peut être un rôle important pour leur propre évolution.
Mais c'est un manque de dynamisme des entrepreneurs français que vous évoquez là, ou à quoi est-ce dû ? À quoi est dû ce décalage entre la volonté affichée, le discours officiel, et puis ce que vous nous décrivez qui est beaucoup moins brillant ?
Je pense que c'est une certaine peur de l'inconnu et de l'exotisme africain de la part des entrepreneurs français qui ne sont pas encore présents en Afrique. Encore une fois, il y a des entreprises qui sont en Afrique depuis longtemps et qui réussissent très bien. Mais
c'est toujours les mêmes depuis 30 ans.
Il n'y a pas beaucoup, je n'en connais pas beaucoup en tout cas, d'entreprises françaises qui est investi avec succès et avec grande importance dans les dernières années.
Alors je reviens à cette importance des industries extractives dans l'économie malienne qu'on a abordée tout à l'heure. Le FMI dit que ça n'a pas permis de beaucoup réduire la pauvreté. Vous partagez ce point de vue, évidemment, d'après ce qu'on a pu comprendre au long de cette émission.
Disons pas suffisamment, mais il ne faut pas non plus critiquer les choses qui ont apporté à l'État malien beaucoup de devises, qui ont apporté beaucoup de recettes fiscales. Le secteur minier aurifère est devenu le premier secteur d'exportation au Mali.
C'est ce qu'Anthony Fouchard nous disait tout à l'heure de Bamako.
C'est une ressource essentielle, une ressource budgétaire essentielle. Ça a apporté un certain nombre d'emplois dans le pays depuis au moins une vingtaine d'années. Mais c'est un secteur qui a des durées de vie limitées. Les entreprises qui font de la production aurifère durent 20 ans ou 25 ans sur un site. Après, elles se ferment. Mais elles peuvent avoir des impacts positifs sur l'environnement. Et je crois qu'il y a actuellement un exemple qui est assez fréquemment cité au Mali. Une entreprise qui est sur un site qui est en fin de vie, qui a, en relation, je pense, avec l'État malien, prévu un certain nombre d'investissements qui vont permettre la poursuite d'emplois dans l'agriculture ou dans d'autres activités artisanales sur ce site. Donc ça veut dire que si on amène les entreprises à faire des efforts, ou si elles-mêmes ont un engagement suffisamment conséquent pour le pays, il peut y avoir un impact positif important.
Frédéric Maury.
Ça reste un secteur qui crée, en tout cas, relativement peu d'emplois, même s'il s'en crée évidemment. Et de manière générale, d'ailleurs, au Sahel, au Mali, comme au Niger, ou dans tous ces pays-là, il y a une démographie qui est très, très, très croissante, qui croît très rapidement. Il y a une agriculture vivrière qui, même si récemment elle revit un peu, a quand même été longtemps mise de côté. Il y a peu d'emplois formels, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'analyse de Serge Mikhailov dans son livre Afrikanistan, qui voit finalement dans le Sahel un nouvel Afghanistan dans quelques années, d'ailleurs de manière assez proche. Est-ce que vous êtes très inquiet pour cette zone ?
Je suis très inquiet pour cette zone. C'est un risque majeur à mon avis. Il y a une augmentation démographique qui est considérable. Bon, les chiffres sont connus, c'est pas la peine d'y revenir. Mais actuellement, je ne vois pas le rythme de création d'emplois, formels ou informels, mais suffisamment qualifiés et suffisamment permanents, qui permettra d'absorber l'ensemble des classes de jeunes qui vont venir sur le marché du travail. Et donc, c'est un risque d'explosion qui est très important. Il y aura de toute façon un équilibre qui se fera, mais il peut se faire de différentes façons.
Par des migrations massives, c'est ça ?
Alors, une première façon positive, c'est qu'il y ait des créations d'emplois qui soient suffisantes, mais pour ça, il faut que les gens soient formés également. On revient au problème que j'évoquais tout à l'heure, et c'est difficile. Il faut qu'il y ait l'incitation à des investissements qui soient capables d'absorber les gens qui viennent sur le marché du travail. Et il peut y avoir une situation explosive, c'est celle qu'évoque Serge Mikhailov dans son livre, où il y a des migrations massives vers l'Europe. Et il peut y avoir une situation intermédiaire. Et je pense qu'il y aura une situation intermédiaire où on créera des emplois, mais insuffisamment. Et il y aura obligatoirement des migrations vers l'Europe. Je crois qu'elles sont vers l'Europe ou vers d'autres pays africains. Je crois qu'elles sont inévitables.
On arrive au terme de cette émission. Paul Deromo, je vais vous poser une question très vaste, très large. Est-ce que vous avez un message à adresser à l'Afrique ?
Ce serait trop ambitieux de dire un message adressé à l'Afrique. Mais ce qui me frappe souvent, c'est que face à... L'Afrique a changé en 30 ans. Elle a changé de manière positive sur un certain nombre de plans. Elle a réduit ses retards sur un certain nombre de plans. Enfin, la banque et les télécommunications en sont l'exemple le plus frappant. Mais elle a des risques énormes qui pèsent sur son futur proche, comme la démographie, on vient d'en parler, comme la qualité de formation des ressources humaines. Et je n'ai pas le sentiment d'urgence suffisante face à ces risques.
Donc votre message est aux Africains, soyez conscients de cette urgence. Merci Paul de Remeau d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Je signale que vous avez publié un livre qui s'appelle Ombres et Lumières d'Afrique. Chez quel éditeur, Paul de Remeau ?
NEI CEDA en Côte d'Ivoire.
Paul de Remeau, vous étiez filmé pendant cette émission. La captation vidéo de cette émission peut être retrouvée sur le site internet de RFI Jeune Afrique. Les meilleurs extraits sont disponibles dans les colonnes de l'hebdomadaire Jeune Afrique dans les kiosques dès demain. Encore un mot pour remercier Guillaume Munier qui réalise et met en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.